Vous êtes à l'écoute de l'heure balado sur les ondes de CFAQ 88.3. Et maintenant, pour la quatrième semaine d'affilée, je reçois une autre fois Jean-François Vachon qui va nous présenter, bien évidemment, l'épisode 4 de sa série de balados s'accorder, qui est un balado documentaire s'intéressant à l'impact des accorderies. Là, l'épisode 1, ça fait un mois à peu près. Là. Ouais. Veux-tu nous faire un résumé là, de qu'est-ce qu'on est rendu où dans la série? Là? Un petit recap jusqu'à maintenant.
Oui, ben c'est ça, l'épisode 1, on découvre un peu c'est quoi les accorderies de façon générale. Après ça, dans l'épisode 2, ben on commence à explorer les impacts des accorderies, en particulier chez les personnes aînées. À Sherbrooke, en allant visiter le café Baobab, en allant aider une dame plus âgée à acheter un humidificateur. L'épisode 3, ben, on s'en va à Shawinigan, voir si les choses sont différentes, s'il y a des nouvelles choses qu'on apprend. Là, on rencontre plein de gens, un événement avec des aînés, tout ça. Et on finit l'épisode, comme vous pouvez vous souvenez, si vous l'avez écouté, avec une personne qui nous parle que un élément important des accorderies, puis pour les aînés, c'est que, oui, ils reçoivent des services, mais qu'on les incite à redonner, tu sais, on les aide à voir qu'ils ont encore quelque chose à offrir, tu sais, qu'ils ne sont pas retraités, puis c'est fini, puis qu'ils n'ont plus de talent, puis qu'on a juste besoin, qu'ils doivent juste être passifs, puis juste recevoir, tu sais, c'est pas ça. Et ça, c'est vraiment, ça l'ouvre la porte pour l'épisode 4, c'est vraiment le sujet. Le titre de l'épisode, ça s'appelle « Débusquer », qu'on aborde le plus, c'est-à-dire vraiment « débusquer » dans le sens « débusquer les talents », d'aider les personnes aînées, puis même plus largement les gens qui rentrent dans l'accorderie à voir c'est quoi leur talent, puis les mettre à contribution.
Ouais, cool. Là, on est rendu là dans notre relation, là, après un mois de... je vais te challenger un peu, je pense, là, tu me diras. On parle des fois d'enquête, des fois de documentaire. Ben, peux-tu nous expliquer la différence, peut-être? Parce que dans ton image, on voit... ben, c'est une enquête sur les accorderies, mais des fois, dans les descriptions, on voit plus documentaire. Y a-tu une nuance? Y a-tu un synonyme pour toi?
Bien, documentaire, c'est encore un terme très large. Des fois, ça arrive, on va sur des tournages, puis il y a des gens qui disent « Ah, ça a l'air le fun, votre projet de reportage. Je suis content de participer à ça. » Puis là, nous, on dit « Non, non, c'est du documentaire. » Puis là, des fois, les gens ne comprennent pas la nuance entre un documentaire classique puis un documentaire, un reportage que tu vois aux nouvelles. Ça se ressemble quand même un peu. Parce que le documentaire, c'est du réel, tu vas voir des personnes. Mais dans le documentaire, la grosse différence, c'est qu'il y a un souci, qu'il y a une histoire, il y a un souci artistique qui est très présent. Une enquête, ça se rapproche un peu du reportage, puis ça se rapproche à une connotation des fois un peu policière. Là,
ouais, c'est ça.
Sous-enquête, c'est pas une bonne nouvelle.
tu t'es déguisé pour aller au Baobab.
C'est ça, ouais, undercover avec la perche. Là, puis, mais ouais, c'est ça. Mais je l'ai appelé une enquête parce que c'est un documentaire au sens qu'il y a un souci artistique, il y a un souci d'avoir une histoire dans le montage, il y a un souci de garder le public attentif. C'est pas juste de transmettre de l'information, c'est aussi de faire vivre des émotions. Ça, c'est, à mon avis, c'est du documentaire. Okay. Pourquoi je dis enquête? C'est parce que c'est dans la structure narrative, dans le sens que tout le long du documentaire, j'explore quelque chose, j'enquête sur les accorderies, j'essaie de m'informer, j'essaie de comprendre, j'essaie de découvrir, puis c'est ça un peu le fil conducteur de ma quête. Parce que ça aurait pu être une autre façon, ça aurait pu être un documentaire audio, la même chose, mais c'est juste moi, je suis un utilisateur de l'accorderie, puis on me suit pendant un an, juste bénéficier des services, mais là, ça aurait pas été une enquête, ça aurait été comme... vivre l'expérience de l'accorderie. Okay. C'est pour ça que je l'amène comme ça. Ouais.
Puis, tu me corrigeras là, si j'ai compris ce, en l'écoutant le balado, ça, là, mais tu as participé à fonder l'accorderie un peu sans le vouloir. Avec, mais au début, c'était comme de l'entraide, mais vraiment axé sur l'écriture de textes et de poèmes, c'est ça? Puis, peut-être que ça va être une réponse longue, là, mais... comment ça a été... c'est fou là, c'est comme moi je l'ai comme comparé, je sais pas si c'est une bonne comparaison là, mais c'est comme quand tu mets une plante dans une pièce que tu vois pas souvent puis que tu y retournes deux semaines plus tard puis elle a full grandi là, ça doit être parle-nous de ça est-ce que ça a affecté, tu sais, est-ce que c'est un but aussi dans ton documentaire d'être objectif ou est-ce que c'était difficile de, tu sais, j'imagine que c'est quelque chose que tu as aidé à créer, fait que on veut en parler en bien. Ouais. Est-ce que c'est un souci? Est-ce que tu avais l'objectivité ou pas vraiment? Tu voulais juste partager la bonne nouvelle, si on veut dire.
Ouais. Ben, c'est un peu des deux. Ça, c'est pour répondre à ta première question.
Ouais.
Non, ta deuxième.
C'est ça.
Mais oui, ben, en fait, c'est ça. C'est, encore une fois, ce qui différencie un peu le documentaire du reportage ou de la recherche pure et dure, tu sais, que l'objectivité est comme roi, si on veut, dans le sens que
ouais.
c'est, le documentaire, ben, comme je te dis, il y a un souci de l'émotion, il y a un souci de l'histoire. Dès le début du projet, moi, j'ai dit, dans le fond, à Paul Morin, j'ai dit, ben, dans le fond, oui, je vais explorer avec des faits, on va regarder ça, mais le balado, le documentaire balado va amener plus loin, au sens que c'est sûr que moi, je vais amener mon point de vue de documentariste, puis... Dans tous les projets que je fais de documentaires, surtout balado, parce que je prends plus la parole que dans les films vidéo, ben, je mets un petit peu de moi dedans. Puis,
ouais.
Parce que, bon, parce que des fois, c'est intéressant de faire des parallèles avec sa vie, mais aussi parce que, étant donné que c'est moi qui fais les narrations, que je sois investi dans le sujet, puis que j'aie ma propre histoire face au sujet, puis que je réagisse à ce sujet-là, pas juste avec des faits.
Ouais.
Je le fais dans le balado, tu sais, il y a des prises de conscience objectives que j'ai puis que, qui me font... Tu sais, on sent quand même que c'est un balado relié à une réflexion. Une chose me fait réfléchir à une chose puis une autre. Mais j'ai quand même ajouté des réflexions personnelles puis des anecdotes personnelles en lien avec ça pour justement que ça soit... que les gens s'identifient à ça. Tu sais, c'est vraiment un souci... c'est pas nécessairement parce que je veux parler de moi, mais juste pour que les gens s'identifient au narrateur puis qu'ils comprennent. Pour ça, c'est vraiment important, pour, encore une fois, pour que les gens trouvent ça intéressant. Fait qu'il y a ça, puis pour revenir à ce que tu disais avant,
ouais.
Dans le fond, l'épisode 1 commence avec une expérience que je parle. C'est que comme quand on commence une série, c'est toujours comment l'épisode 1 est vraiment important, comment je peux commencer ça, tu sais.
Ouais.
Puis j'ai longtemps réfléchi à ça parce que c'est la corderie, c'est de l'entraide. Puis là, je me suis questionné, moi, c'est quand la première fois que j'ai vécu ça dans ma vie, là, ce sentiment d'entraide-là? Et ça m'a ramené 20 ans en arrière, même plus que ça, quand j'avais fondé un groupe d'écriture, tu sais, où est-ce que là, on échangeait ensemble des textes, des commentaires, on faisait des projets ensemble. Ça n'avait aucun lien avec la corderie. Mais c'est en faisant ça que j'ai découvert un peu de faire des projets, puis j'ai découvert ce trip-là de faire des projets, puis de s'entraider dans des buts communs. Puis la corderie de Sherbrooke a été fondée en vraiment plus tard, là, 14 ans plus tard, en 2013, 2014, ma mémoire fait défaut. Vous écouterez l'épisode 1, vous allez avoir la bonne date. mais oui, c'est ça, puis je faisais un parallèle avec ça. Puis oui, j'ai contribué à la fondation de la corderie de Sherbrooke. Il y avait eu un gros travail qui avait été fait au départ de débroussaillage.
Okay.
Moi, j'étais arrivé un peu vers la fin, mais j'étais sur le premier conseil d'administration. C'est sûr que dans le balado, ben pour moi, je vais essayer quand même de montrer les accorderies sous un angle positif. Il y a quand même un angle assumé à ce niveau-là, mais sans occulter nécessairement les défis. Tu sais. Fait que c'est un peu, c'est objectif, mais quand même, vu que c'est comme le côté artistique qui est à ça, ben c'est objectif, mais il y a un petit élément de subjectivité relative. Mettons, là,
c'est normal. OK, c'est, ouais. C'est bon. Ouais, bon, je pensais ça. Comme auditeur, j'avais quand même plus l'impression que c'était le but, c'était de nous le faire découvrir, là, plus que, de comme tu dis, de classer des faits. Mais nous, je pense pas qu'il y a tant de points négatifs non plus là, pour baisser dans la balance. Là. Sinon, tu as parlé brièvement là, au fil de nos présentations là, de Paul Morin.
Ouais.
Qui est comme ton collègue là-dedans, que vous avez fait peut-être d'autres projets aussi ensemble. Veux-tu pas nous parler en fait de ton équipe, là, qui tu sais, tu parles aussi ouais. souvent d'un preneur de son. C'est quoi le rapport au projet à ces gens-là?
Ouais, j'ai cette habitude-là d'inclure, même des fois on les entend, les collaborateurs, même ma blonde, dans l'épisode 2.
Ouais.
Parce que je trouve encore une fois que ça amène de la couleur, tu sais. Je veux dire, la personne est là, elle prend le son avec moi, ben, elle a sûrement de quoi à dire, tu sais. Puis des fois, c'est super intéressant quand je donne la parole.
Ouais, moi, j'adore les rires de caméraman, en tout cas,
ouais,
qui se traduit moins bien au balado, là, mais...
Ça ajoute,
mais,
là,
ouais, c'est ça.
Fait que oui, tu sais, il y a Paul Morin qui m'a vraiment fait confiance dans ce projet-là, là, de s'embarquer dans ce projet-là de balado en complément avec la recherche, puis tu sais, d'y aller avec le financement aussi de ça, de faire confiance. Les accorderies, c'est sûr, je les vois un peu comme des collaborateurs super importants parce que c'est eux qui m'ont permis de rencontrer les gens, qui ont donné leur consentement pour les entrevues, qui m'ont des fois suggéré des événements où aller. Il y a vraiment toute une belle collaboration là. Il y a Jean-Sébastien Dutille qui m'a accompagné à plusieurs enregistrements, qui est un peu mon collègue. Quand je fais du documentaire vidéo, ben, c'est tout le temps avec lui que je travaille. Ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble, donc on a un bon lien. Lui, il a fait la prise de son quelques fois. Il y a un autre preneur de son qui est dans l'épisode 5 aussi, à qui je donne la parole, qui a été le preneur de son du balado que j'ai fait avant, l'année passée. Il y a le mixeur Antonin Weiss qui est, j'espère que je prononce bien son nom, lui dans le fond qui il fait le mix final, puis lui c'est ça, je l'ai connu parce que il faisait partie de Magneto qui est un organisme à but non lucratif là, qui faisait la promotion des balados en partie de balados documentaires. Puis j'avais fait une formation avec lui, puis là, je l'ai contacté. J'espère que j'oublie personne. C'est ça. Fait que c'est l'équipe principale. Puis avec Paul Morin, ben oui, on a fait plusieurs projets. Moi, ça fait comme 12 ans que je travaille pour Paul. Je l'ai aidé. C'était souvent un peu comme employé, mais avec le temps, on a créé des bons liens. Je l'ai aidé à créer des livres sur les HLM. C'était mon directeur de thèse quand j'étais au doctorat. Puis après ça, lui, c'est un professeur qui vient du milieu communautaire, puis il a toujours eu ce souci-là de démocratiser les connaissances de toutes les façons possibles. Donc, on a développé rapidement ensemble un site qui s'appelle Focus sur le logement public, qui parle des HLM, puis là-dessus, il y a des vidéos, il y a des balados, il y a plein de choses. Puis c'est dans le cadre de ce projet-là que j'ai fait, que j'ai eu, mettons, mon premier financement pour faire un balado. Puis ça m'a permis de me former un peu moi-même en faisant ça.
Ouais, cool. Puis au niveau de l'image sonore, c'est qui s'occupe de la créer? C'est-tu des parce que je trouvais que ça sonnait bien et que ça fitait bien avec le propos. Là. C'était comme un guide acoustique. Là. Parle-moi un peu de ça.
Ouais, au niveau de la musique, c'est sûr que tu sais dans un balado comme ça, c'est financé, mais au niveau du budget, j'ai pas eu de budget suffisant pour vraiment que ce soit un compositeur qui ait tout enregistré, toutes les pièces. Donc ça vient de toutes les pièces, sauf à la fin de l'épisode 5, il y a une pièce qui vient d'un auteur original qui s'appelle Yann Fournier. Les autres, ça vient d'une banque de musique libre de droit. C'est des comme en fait, ça vient de Epidemic Sound. Ça, tu t'abonnes à ça. C'est quand même... ça coûte 450$ par année.
Ah ouais,
puis là, tu peux utiliser... tu peux utiliser libre de droit, plein de musique, plein d'effets sonores. Puis c'est ça que j'ai utilisé. Mais j'ai quand même fait un choix. Je me suis dit, c'est quoi la... C'est moi qui ai fait le choix de dire que ça va être tout de la guitare, tu sais, un peu style flamenco. En tout cas, je connais pas les styles de musique en détail, mais c'est comme ça que j'ai décidé de donner la signature. Fait que je choisissais vraiment les pièces en fonction de la signature que je voulais donner qui se reproduit. Puis les effets sonores, la plupart, c'est moi qui les ai enregistrés, mais des fois, ça arrivait qu'il me manquait un bruit de porte ou un bruit d'escalier X, puis là, j'avais pas le temps, j'allais le chercher sur ces banques-là de libre de droit. C'est vraiment un super bon outil. Mais c'est sûr, c'est intéressant quand tu peux avoir un budget pour de la musique originale, parce que là, tu peux travailler avec quelqu'un qui va vraiment pouvoir créer une pièce sur mesure pour ça, c'est sûr. Puis quand tu vas dans des festivals, tu vas dans des concours, quand tu as de la musique originale, c'est souvent plus primé. Mais dans ce projet-là, j'ai pas pu, mais même à ça, j'ai fait un gros travail de recherche.
C'est ça, puis ça fitait bien avec le propos. Là. C'était des bons choix.
Quand en musique, ça vient, c'est ça.
Ça a de la valeur. Je me demandais, j'étais quand même, c'est bien enregistré. Je me demandais si c'était toi qui l'avais fait, vu que c'est ta voix, elle sonne aussi bien enregistrée. Fait que je me demandais si c'était toi qui jouais, mais ouais, voilà. C'est ça, tu peux peut-être présenter l'épisode 4 là, qu'on s'en va écouter.
Ouais, c'est ça, ça se passe à Longueuil. C'est qu'on continue notre périple pour aller à la corderie de Longueuil. On s'en va à une fête d'Halloween, vous allez découvrir, un petit peu comment ça se passe, les activités sociales là-bas. Puis l'épisode est beaucoup sur le thème, je le disais un peu tantôt, sur comment la corderie peut aider les gens à pas juste recevoir, mais donner aussi, rendre des services, puis à voir aussi qu'est-ce qu'ils peuvent donner.
Bon, super, merci Jean-François. Donc on va écouter l'épisode 4, donc je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine pour déjà le dernier épisode de cette série de balados.
T'es prêt?
Ouais. Faudra peser sur le bouton.
Ouais.
On est là!
Ouais, c'est nous autres. Oui, on vient faire un tour. Bonjour.
Vous écoutez S'accorder, un balado documentaire où je vais sur le terrain pour découvrir l'impact des accorderies par la voix de ceux qui en font partie.
Il y a pas mal de monde quand même.
Ben oui. Oh, on attend plus que ça.
Plus que ça, hein?
Oui, on attend pas mal plus que ça. Où est-ce qu'on courait l'Halloween, le 31?
Non, non, on court pas l'Halloween, mais ben, on voit les décorations des magasins. On le vit comme ça.
Ce que je disais à cette femme-là est vrai. Ces dernières années, ma célébration de l'Halloween se résumait à constater qu'elle existe à cause des décorations dans les magasins. Ouais, le grand fan de cette fête-là que j'étais il y a 35 ans aurait été déçu d'entendre ça. Mais bon, mon cœur d'enfant bat encore, on dirait.
Wow, hey, ton costume, c'est cool.
Même mon Dieu, une momie.
Momie, des sorcières, des pirates... J'ai un Stormtrooper, j'ai vu aussi.
Il y a tout,
il y a tout, vraiment.
OK, ça me rassure. Ma vieille passion n'est pas complètement morte. On sentait encore un certain enthousiasme. Mais ce soir-là, je ne m'étais pas nécessairement déplacé à une fête d'Halloween pour replonger en enfance. Moi et Jean-Sébastien, mon collègue qui m'aidait pour le son, on s'était rendu là-bas parce que l'événement était organisé par l'accorderie de Longueuil. C'était une des seules accorderies qui avait participé au projet de recherche de Paul qu'on n'avait pas visité.
Il est beau, votre costume.
Oui, merci.
Tranquillement, les gens arrivaient. Il y avait des enfants, des personnes dans la trentaine, sauf que je constatais tout de même que l'âge moyen était, disons, plus âgé que moi, mais seulement physiquement, parce que la plupart des aînés présents étaient encore très jeunes, dans le bon sens du terme. Je me souviens plus exactement du costume de cette femme-là, mais ça faisait sensation. De mémoire, je pense qu'elle avait une grande robe qui lui donnait les allures d'une dame de haute classe. Encore une fois, notre équipement d'enregistrement, une longue perche avec un micro, a fait réagir.
Il y a quelqu'un qui nous espionne, fais attention à ce que tu dis.
Les espions qui se spécialisent dans les sorcières, tu sais.
Dans un sens, c'est vrai. On était presque des espions, parce qu'on enregistrait et on écoutait les conversations des gens. À la blague, je disais que c'était notre déguisement d'Halloween. Mais plus sérieusement, on était là sur invitation pour enquêter et rencontrer les accordeurs aînés de la région. Et nos premières questions étaient les mêmes que d'habitude. Connaître ce que l'accorderie leur apportait concrètement.
Moi, j'ai utilisé à un moment donné quelqu'un qui est venu peinturer chez moi. À part de ça, qu'est-ce que j'ai eu? Un transport. Moi, j'en ai fait du transport aussi.
Pour aller à l'épicerie chez le médecin?
Ouais, ben c'était aller chercher quelqu'un qui revenait de voyage.
OK. Jusqu'ici, en incluant cette femme-là et d'autres personnes qui étaient sur place, j'avais pas de surprise. L'accorderie aidait clairement les aînés, peu importe où ils habitaient. Par contre, ce qui était intéressant du témoignage de cette personne-là, c'est qu'elle me disait pas uniquement ce qu'elle recevait.
Moi, j'ai offert de faire des desserts. Je faisais du ménage, l'entretien, mais de l'entretien avec des personnes qui voulaient laver leur cuisine. Fait qu'on était trois filles. Fait que c'était agréable parce que tu faisais un petit party en même temps.
Là, ouais, tu jases en même temps.
C'est ça.
Il n'y avait pas de doute. Les accordeurs qui étaient là ce soir-là étaient des individus qui donnaient aussi. Et de toutes sortes de façons.
Il y a aussi, il y en a qui ont offert des chalets.
Un chalet. Ah oui, des chalets, c'est possible de
oui,
faire...
Oui, tu peux avoir d'hébergement, des échanges d'hébergement.
OK, c'est un service location de chalet.
C'est ça.
Oh, wow! Je découvrais à ce moment-là que des accordeurs pouvaient offrir d'héberger quelqu'un. Et je constatais que des services comme ça, qui comptabilisaient le nombre d'heures nécessaires à la préparation de l'hébergement, montraient à quel point qu'il était possible pour les aînés de l'accorderie et des autres catégories d'âge de donner un large éventail de services moins physiques. C'était le cas de l'animateur de la soirée qui, vous l'avez deviné, offrait un service d'animation d'événements.
Ce soir, il y a des accordeurs nouveaux et il y a des accordeurs anciens.
OK.
Fait que là, l'idée, c'est de faire connaître aux nouveaux, dans le fond, c'est quoi l'accorderie, en quoi ça consiste, quels services ils peuvent recevoir, puis quels services ils peuvent donner.
Comme Jean le soulignait, c'était son nom. Le véritable but de la soirée en dehors de fêter l'Halloween était de transmettre de l'information aux gens présents. Et, surtout, de voir ce qu'ils peuvent recevoir et donner. Évidemment, je savais ça bien avant l'événement et c'était pour ça que je m'étais déplacé.
Toi, à part l'animation, quel service t'offre?
Je vois de la photo.
OK.
Probablement de la photo. Ça aurait pu être de la marche à chien, mais là, j'ai de la marche pour les pitous. Okay. J'ai trop mal au dos.
Jean offrait donc des services adaptés à sa réalité et à sa condition physique. C'était un excellent animateur. On sentait l'expérience.
Je m'appelle Jean. Jean Batailleur. Non, Jean. Je suis votre photographe, non, votre animateur. Mais ce que j'espère, c'est de faire connaître la corderie à des nouveaux ou des nouvelles qui sont ici ce soir aussi. J'aurais besoin des vieux puis des vieilles.
Quand Jean disait vieux, il voulait dire les vieux accordeurs, c'est-à-dire les membres de longue date. Mais c'était pas toutes les personnes qui avaient compris ça. Certaines ont donc osé dire leur âge.
J'ai 350 ans.
C'est on a une, c'est pas pire. 350, qui dit mieux? La momie, 4 millions d'années, une main d'applaudissement pour la momie.
Il n'y avait donc pas de limite d'âge pour être membre de la corderie. Non, sans farce. C'était ça l'ambiance de la soirée. Des blagues, des sourires et des personnes qui étaient visiblement à l'aise d'être là et qui étaient contentes de faire connaissance. Après d'autres blagues et quelques anecdotes, l'animateur a fait le tour de la salle pour demander à plusieurs aînés ce qu'il ou elle pouvait offrir.
Pensez-vous vouloir donner des services éventuellement?
Oui, je peux donner quelque chose en service. J'aime la couture, j'aime le tricot, j'aime le bricolage, je suis une artisane.
Une autre artisane. Intéressant. Ça me faisait penser à toutes les femmes aînées que j'avais rencontrées au Baobab. Mais ce n'était pas les seuls services qui étaient offerts.
Moi, j'ai beaucoup de services à offrir dans la comptabilité parce que je travaille là-bas et je parle très bien anglais et je parle les 4 langues et aussi je suis une bonne cuisinière aussi.
Pendant que vous faites les impôts, pendant que vous allez faire mes impôts, vous allez pouvoir me faire mon souper en même temps. C'est...
Oui.
C'est
bon. Était bonne celle-là. Décidément, Jean n'en laissait pas passer une. Et il a ensuite posé une question bien intéressante.
Est-ce que vous êtes très occupés, les accordeurs qui ont commencé à rendre des services?
Moi, cet été, je peux dire que j'étais assez occupée. Quasiment une fois par semaine, j'avais une activité de nettoyage de jardin.
Elle est venue au moins 2 fois. Très efficace, hein? C'est vraiment, vraiment...
La baguette magique.
Elle est venue chez nous. Elle est venue chez nous aussi. Il y en a tout d'autres, là.
Les autres sont à brossard. J'en ai beaucoup à brossard.
Elle est efficace, là.
C'était concluant. Non seulement des aînés offraient leur talent et leur temps, mais leur service était apprécié. Après un moment, j'ai dû intervenir parce que l'accordeur, qui était déguisé en sorcière, se questionnait encore sur la présence des micros.
Pourquoi est-ce qu'ils nous espionnent?
Je pourrais vous expliquer. C'est un projet, c'est en lien avec le projet Résilience, pour ceux qui connaissent.
Ah, okay.
Moi, je travaille avec le chercheur Paul Morin. Dans le fond, j'ai offert de faire un balado. Parce que...
J'ai passé un certain temps à expliquer le projet, jusqu'à temps qu'une accordeur me pose une question.
C'est quoi le projet Résilience?
Est-ce que quelqu'un peut me...
C'est le moment idéal pour que je vous présente Mariette, une accordeur qui est l'une des cofondatrices de l'accorderie de Longueuil. Je lui avais donné la parole parce qu'elle était la responsable du projet dans la région. C'était aussi une excellente porte-parole.
L'idée, c'est de permettre à des gens qui le désirent de rester à domicile le plus longtemps possible. Je trouve des gens d'un certain âge, s'ils ne sont pas accordeurs, ils le deviennent, et je leur fournis, grâce aux accordeurs, les services dont ils ont besoin.
Comme d'autres, elle faisait mention de ce que l'accorderie pouvait apporter aux aînés. Mais c'était pas tout.
Ça permet à ces gens-là de sortir de leur isolement. C'est des personnes qu'on réveille, qu'on réanime.
Pendant que Mariette parlait, j'ai remarqué qu'un homme, présent dans la salle, avait peut-être un service intéressant à offrir.
Service d'harmonica?
Oui, oui.
La soirée s'est terminée sur de bonnes notes, c'est le cas de le dire. Et le lendemain matin, parce qu'on a dormi là-bas, j'avais prévu de faire une entrevue avec Mariette pour qu'elle m'en dise plus sur comment s'était passé le projet Résilience à Longueuil. On l'a rencontré dans les bureaux de l'accorderie.
Ça, on va installer un micro au-dessus de toi ici, puis moi, je vais avoir ce micro-là.
C'était pas la première fois que je voyais Mariette. Je l'avais déjà rencontrée quand Paul Morin avait dévoilé ses résultats de recherche préliminaires. Discuter avec elle, c'était un cadeau, parce qu'elle était habitée par le projet et on sentait qu'elle était convaincue de ses bienfaits. Elle m'a parlé de ce que les accordeurs apportaient aux aînés, mais aussi ce qu'ils pouvaient offrir. C'est triste à dire, mais certains d'entre eux n'étaient pas toujours persuadés qu'ils pouvaient encore donner quelque chose.
Les 16 personnes que je suis présentement, c'est incroyable. « Oh non, moi, je ne peux pas rien faire. J'ai mal partout. » Il s'agit de débusquer le service que la personne pourrait offrir.
Débusquer. J'aime bien ce mot-là.
Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on...
Et en parlant avec Mariette, je prenais conscience que cette action-là était au cœur du projet Résilience et de la recherche de Paul.
Je m'installe, puis je dis, « Tu te fais-tu à manger, toi? » Oui, 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 tous les jours, puis tout ça. « Qu'est-ce qui arrive quand tu te fais un pâté chinois? » »« J'en ai pour la semaine. » Ah! Qu'est-ce que tu dirais si tu en offrais la moitié à un autre accordeur? Je pourrais faire ça! » Des étoiles dans les yeux. Cette personne-là, depuis ce temps-là, fait des repas à un et à l'autre. Wow. Puis elle ne me parle jamais de ses bobos. C'est fini.
C'était révélateur. Et dans le cas de cette femme, l'impact de l'accorderie et du projet Résilience était double. Elle avait pris conscience qu'elle avait toujours quelque chose à offrir et le fait de faire ça semblait aussi contribuer positivement à sa santé. Mais ce n'était pas la seule retombée de tout ça, tant pour elle que pour les autres participants.
Les personnes, quand ils me voient arriver, ils trouvent ça extraordinaire qu'il y ait quelqu'un qui prenne le temps d'aller les rencontrer et de les entendre et de les écouter. Ça, là, ça valait la peine de faire ce projet-là, juste pour ça. Ça a mis du monde là, vivant, là. Ça les a éveillés. Je pense que c'est les accordeurs qui sont les plus actifs présentement.
OK. Ceux qui ont vécu ça.
Qui sont dans le projet Résilience.
Parce qu'ils voient, il y a un besoin qui est là. Puis,
Ils voient leurs besoins, puis ils voient qu'ils peuvent rendre service aussi. Fait que là, ils sont tous vraiment stimulés à dire hey, moi, je peux faire des repas, moi, je peux téléphoner à la personne qui a besoin d'être téléphonée. Ah oui, moi, je vais aller faire l'épicerie avec le monsieur qui n'est pas capable, puis ça roule tout seul. Oui. Okay. Ah oui, c'est vraiment génial.
Les exemples que Mariette donnait et la conviction qu'elle avait face aux impacts du projet étaient contagieux. Et ce que les aînés offraient et recevaient, c'était pas juste du un à un.
J'ai une dame, elle avait des besoins. Mais une résilience, là, c'est le cas de le dire, écoute, elle fait ce qu'elle a à faire. Comme là, elle ne mange que des purées. Fait que j'ai trouvé des accordeurs qui font des dégâts de purée de patates, purée de carottes, purée de navets, purée de betteraves. Elle n'en revient pas, là, tu sais, que quelqu'un puisse faire ça pour elle, là, tu sais. Mais c'est une personne qui a un intellect très haut niveau, très documenté, qui fait de la communication. Puis, fait qu'on essaye de trouver un moyen de lui faire de la communication, mais à partir de chez elle, là, tu sais.
J'étais peut-être hypersensible, mais ce que Mariette me racontait et la façon dont elle s'exprimait me donnait des frissons. J'étais curieux d'en savoir plus sur elle.
Moi, je vois, c'est ça, je vois que t'es très habité par ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de participer à ça? Parce que je vois que toi aussi, t'as des étoiles dans les yeux quand t'en parles. Là. C'est un balado, on le voit pas, là, mais je l'ai dit.
Mais moi, quand j'ai rencontré Paul Morin pour la première entrevue, puis tout ça, ce projet-là, c'est un petit peu égoïste. Là, t'sais. Moi, je me vois venir, tu sais. Puis moi, j'irai pas dans un CHSLD. Non, j'aimerais rester le plus longtemps à mon domicile et je voudrais pas être un fardeau pour mes deux enfants et mes petits-enfants, tu sais. Et de voir aussi des gens qui sortent de leur isolement puis qui revivent. Ça, là, c'est le salaire. C'est vraiment... Moi, ça me fait chaud au cœur. Vraiment.
Puis j'ai continué de discuter avec Mariette dans l'objectif de mieux la connaître. Je lui ai demandé comment l'accorderie était un atout pour elle en tant qu'aînée.
Trouver quelqu'un qui peut venir réparer ma plomberie pour 2 heures de service au lieu de 200 piastres de service, pour moi, c'est gagnant.
Ouais.
Puis je trouve que c'est une économie sociale qui devrait prendre plus d'ampleur encore parce que de plus en plus, tout coûte cher, puis tout ça, là, tu sais.
Ça devrait être des services professionnels, électriciens, plomberie,
C'est cher. Juste un massage, là, c'est 110$. Là,
ouais, exact.
Ça te coûte une heure et vingt, une heure de massage. Mettons que ça se prend bien.
Ce qu'elle exprimait au sujet des massages me rappelait ce que Nadia m'avait dit à propos d'une accordeur du coin de Lac Mégantic qui avait bénéficié du même service. Décidément, les données se confirmaient et commençaient à se répéter. J'ai donc posé une question à Mariette que je n'avais pas encore explorée avec personne. Je pensais à tous les accordeurs que j'avais rencontrés dans des événements depuis le début du balado et souvent les jeunes étaient moins nombreux. En fait, quand on regarde les statistiques combinées de toutes les accorderies du Québec, on voit que seulement 10% des membres qui ont voulu révéler leur âge ont moins de 36 ans. Et l'accorderie de Longueuil fait pas exception.
En bas de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, on veut travailler ça. Ouais. Fait qu'il faut regarder où est-ce qu'on pourrait accrocher la jeunesse parce qu'on en a besoin. C'est parce que oui. Même le menuisier que moi je connais, il a 73 ans. Fait qu'il commence à dire...
Ouais.
Il ne faut pas que les tablettes soient trop lourdes, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait qu'on a besoin de jeunesse, là. Il faut travailler ça.
Elle amenait un bon point. Depuis le début du projet, ce que je constate, c'est que les accorderies sont un atout pour les aînés. Mais effectivement, le profil des accordeurs pourrait être plus équilibré. Pour finir la discussion, j'ai exploré une autre avenue.
Y a-t-il quelque chose qui bloque les gens à demander l'aide qu'ils ont besoin? Y a-t-il...
L'humiliation
de
demander. Mm. Ça, je pense que ça joue. C'est un manque d'humilité, dire j'ai besoin de service, ou bien donc dire ah, même si je demande, j'aurai pas de réponse, là, tu sais, parce que personne va venir faire mon entretien ménager, là, tu sais. Mm. Même s'ils sont déjà accordeurs, ils n'arrivent pas à penser à ça, ou ils disent ah, c'est tellement compliqué sur l'Internet, parce que souvent, les gens sont pas habilités. Fait que oui, il y a toutes ces petites raisons-là. Puis, oh mon Dieu, t'as coup que la journée qui vient faire mon entretien, je suis en pleine souffrance, je vais être obligée de l'annuler, ça me tente pas qu'on me voit comme ça. Puis, c'est des petites choses, mais c'est insidieux.
Je suis sorti de la rencontre avec Mariette en ayant l'impression que l'entrevue que j'avais faite avec elle, c'était une petite mine d'or. Si je prends un recul, je constatais que plusieurs facteurs pouvaient bloquer les échanges entre les aînés, notamment la gêne, le manque de confiance en leur talent, la honte d'être vu en maladie et un dernier point qui m'intriguait particulièrement, la peur de demander. À mon retour de Longueuil, j'ai continué à creuser ce sujet-là en redemandant à Jean-Sébastien si ses grands-parents seraient prêts à utiliser les services de l'accorderie.
Moi, je te dirais, là...
Avant de me répondre, il a fait une longue pause, parce que c'était pas évident. D'un côté, il était sûr qu'il trouverait ça utile. Mais il m'expliquait également que ses grands-parents avaient le réflexe de laisser les services des organismes communautaires aux autres personnes qui, selon eux, en avaient plus de besoin. Enfin, Jean-Sébastien me disait ça, mais en même temps, il se demandait si c'était vraiment ça la raison. Parce que disons que demander de l'aide, c'est pas vraiment la plus grande force de son grand-père et de sa grand-mère.
Le désir de... pas trop se faire prendre en charge, de pas trop se faire aider. Indirectement, on le vit aussi, la famille, tu sais, parce qu'on a envie de les aider, on veut pas les voir souffrir, on veut pas les voir se diriger vers une perte d'autonomie. Puis même si tu offres de l'aide, ben tu sais, ils ont peur de déranger.
C'est ça l'ironie de la chose. Je parlais de ça avec quelqu'un à un moment donné. Là. Autant que les gens, ils ont... Je pourrais dire les Québécois, ils ont... tu leur demandes de donner, là, de donner du temps, de faire du bénévolat, de faire ça. Tu sais, les gens sont très rapides à vouloir aider, mais à se faire aider, c'est un autre game. Là. Fait que, tu sais, c'est comme incompatible un peu. Il y a plein de monde qui veulent aider, puis il y a plein de monde qui veulent pas se faire aider. Tu sais. Fait que ça ressemble.
À l'accorderie, il doit y avoir plus de gens, j'imagine, qui ont des dizaines, des centaines d'heures en banque.
L'intuition de Jean-Sébastien était bonne. De nombreuses personnes m'ont confirmé que certains accordeurs avaient effectivement un nombre d'heures très important et que ça créait un déséquilibre. Quelques jours plus tard, pendant une rencontre avec Paul, j'ai continué de creuser ce filon-là.
Ouais, non, ouais, les gens veulent pas demander. Ben, je veux dire, on est dans une société qui est quand même relativement assez individualiste, donc je pense...
Ça, c'était la réponse, disons, macro-sociologique. L'individualisme est une réalité qu'on peut sentir, oui, mais c'est difficilement vérifiable et c'est encore plus ardu de cadrer la question dans le sujet des accorderies. Mais un peu plus tard, dans notre discussion, Paul m'a lu une citation de sa recherche qui constituait peut-être à la fois une explication et une solution à l'hésitation qu'ont certains aînés de demander.
J'ai en tête une dame qui a toujours eu un très, très beau jardin assez grand qui demande beaucoup d'entretien. Et maintenant, elle est vieillissante depuis au moins 2-3 ans. Elle a de la difficulté à entretenir ses plates-bandes et elle demande toujours de l'aide pour désherber 1 à 2 fois par année. Et elle nous dit toujours, je ne sais pas ce que je peux offrir maintenant, j'ai besoin plus que ce que je peux offrir, mais c'est une dame qui s'est offerte pour faire de l'écoute active. Donc, elle n'a pas besoin de se déplacer, ça ne lui demande rien physiquement. Et il y a des personnes qui ont beaucoup apprécié. Et elle donne aussi des conseils au niveau du yoga. Donc, on a une façon pour elle qu'elle ne se sente pas toujours endettée, puis ça les met toujours plus à l'aise de pouvoir demander de l'aide. Ouais, c'est beau, mais parce que ce qu'on retrouve ici, c'est, tu vois, c'était... Quand elle dit qu'elle ne se sent pas toujours endettée, il y a aussi ça qui peut être un frein à la participation de certains, dans le sens qu'ils sont toujours en train de, certains le disent, de quémander. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent redonner. D'où l'importance, effectivement, de bien saisir leurs ressources pour pouvoir, effectivement, leur démontrer qu'ils peuvent contribuer. C'est toujours ce qu'on appelle en langage sociologique don contre don. Parce que la logique du bénévolat, ça peut être aussi une logique. Quand c'est unidirectionnel, bien, ça peut être aussi une forme de dépendance, c'est-à-dire que là, toi, tu reçois, tu es toujours en passivité. Ouais. Tandis que là, c'est bidirectionnel, et donc, c'est les deux sont actifs.
C'est éclairant, ça. Si j'analyse bien, l'hésitation de certaines personnes à demander des services serait plus forte chez les individus qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas la possibilité de redonner quelque chose d'équivalent. Par contre, ce que Paul soulève révèle aussi que l'accorderie est un modèle bien placé pour être un antidote à ce blocage-là. Après plusieurs entrevues dans 3 accorderies et avec le réseau accorderie, je sentais encore une fois que ce que les gens me disaient commençait à se répéter un peu. Mais malgré ça, j'étais convaincu que certaines subtilités m'échappaient encore. Et ce qui me restait comme moyen pour les capter, c'était de tomber en mode observation. J'ai donc pris mon téléphone et j'ai laissé un autre message à Isabelle, l'agente de mobilisation en lien avec les aînés à l'accorderie de Sherbrooke.
Salut Isabelle, c'est Jean-François pour le balado, j'espère que tu vas bien. En fait, je t'appelais, je me demandais si tu peux m'aider. J'aimerais ça observer un échange entre 2 duos d'accordeurs,
Isabelle est très efficace. En peu de temps, elle est entrée en contact avec 2 groupes d'accordeurs qui allaient se rencontrer prochainement pour échanger des services et j'aurai la possibilité d'observer et d'enregistrer leurs échanges. J'avais donc 2 occasions d'en apprendre plus.
C'est un quartier que je connais pas ici, mais en tout cas, c'est un quartier pas mal neuf. Hein?
On arrive!
Le premier groupe est un duo composé de 2 femmes retraitées. Celle qui recevait le service était Jacqueline, une aînée qui résidait dans une coopérative d'habitation. Jacqueline, qui vivait seule, demandait un service à cause d'un problème de mobilité physique qui l'empêchait d'aller promener sa chienne, qui s'appelle Lily.
Il y en a combien qui viennent par semaine t'aider? C'est différent.
J'ai 3 personnes qui couvrent 4 jours semaine.
OK, quand même.
Donc, elles viennent 1 fois par jour, là, à l'heure qui leur convient.
C'était assez impressionnant. Jacqueline parvenait presque à chaque jour à trouver des promeneuses avec l'accorderie, elle les appelait comme ça, pour aller marcher avec Lily. Après un certain temps, Jeannette, la promeneuse du jour, est arrivée.
Hey! Coucou!
Bon!
Salut!
Lily! Ça, j'ai fini, là. Je t'avais montré la première paire.
De mitaines, là.
Ouais.
Woohoo, là, ça va. Oh, wow! C'est cool. La bru va être contente.
Je pouvais pas avoir un meilleur exemple. En échange de l'aide qu'elle offrait, Jeannette avait usé ses heures à corderie pour bénéficier du service de tricot de Jacqueline. Et juste avant, elle m'avait dit qu'elle avait utilisé ses autres heures pour faire changer ses pneus par Guillaume, le même gars qui avait réparé ma sécheuse il y a quelques mois. Le monde est petit.
Quand j'ai su que Jacqueline faisait du tricot ou du crochet, oh là, je l'ai mis au travail. Là, elle m'a fait des foulards pour mes brus puis une de mes filles. 3 foulards Noël passé. Puis là, 3 paires de mitaines. Là, vous dites pas ça. Là, vous sortez pas cette information-là.
Okay.
Le déplacement avait valu le coup. Parce que ça m'avait permis d'assister à un bel échange donnant-donnant. Une amitié semblait aussi unir les deux femmes. J'ai pas pu m'empêcher de sortir de mon mode observation.
T'aimes ça faire ça, promener le chien? Qu'est-ce que ça t'amène de
mais
bouger,
c'est bon. Sortir? Ben, c'est bon pour tout le monde.
Ouais.
C'est bon pour moi. C'est bon pour Lily. Garde-moi la taille à Lily.
Ouais.
C'est à rêver, là. Toutes les chiennes veulent une taille
moi,
comme ça.
Moi, je suis contente aussi.
Puis, Jacqueline est contente
parce
aussi.
Parce que Lily est contente.
Alors, c'est un
gang-gang. Tout le monde est content. Ouais, vraiment.
Ouais. À chaque...
Jeannette m'a répondu et après ça, une discussion de cadre de porte assez riche a commencé. Jacqueline en avait beaucoup sur le cœur.
Tu sais, les femmes de mon âge, là, elles sont capables de faire du travail puis elles peuvent faire plein d'affaires, là.
C'est ça?
Ouais.
Mais pas nécessairement au même rythme.
C'est ça.
T'sais, moi, une demi-journée, là, à moisson, on travaille fort à la banque alimentaire, là. L'après-midi, là, ça s'appelle, on dîne puis on fait une sieste. On se permet une sieste.
On n'a plus le même niveau d'énergie, je dirais, là, tu sais, mais on est quand même capable là, de faire plein d'affaires encore, tu sais.
Ouais.
Ah, ouais.
On est forte, on est capable.
Probablement parce que j'étais là et qu'elle savait qu'elle était enregistrée, Jacqueline tenait fortement à dénoncer certaines idées préconçues à propos des aînés qui, manifestement, l'agaçaient beaucoup.
Moi, je trouve que c'est les gens de ma génération, là, ils nous ont lavé le cerveau avec là, le « prenez votre retraite », puis là, pensez à tout ce que vous n'avez pas pu faire avant. Vous pouvez aller en avion, faire du parachute, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils nous avaient raconté. Je me suis dit, mon Dieu, c'est-tu assez sans dessin un peu, là, tu sais? J'ai pas besoin de... C'est pour dire que j'ai une retraite bien remplie, de dire, ah, tu sais, je suis montée sur le mont Kilimanjaro, ou je sais pas quoi, ou que j'ai sauté en parachute, ou que j'ai fait du bungee. C'était ridicule.
Cette image-là d'une retraite 100% amusante, venait la chercher.
Je trouve que ça réduit un peu les personnes âgées à, je sais pas, c'est comme des enfants qui s'amusent. Hein? Moi, je trouve que les retraités pourraient être utilisés davantage.
On peut encore donner, parce qu'à un moment donné, c'est ça, si on fait juste du loisir, on sent, c'est plus valorisant, à un moment donné.
Moi, je trouve que c'est plus que... Même c'est comme débilitant un peu, là, je sais pas. Là, on a quand même encore un cerveau qui fonctionne pour la plupart. Je veux dire, c'est les gens là, qui ont des problèmes d'Alzheimer ou de, je sais pas, de en tout cas, des problèmes de cerveau en vieillissant, c'est quand même pas la majorité des retraités.
J'étais d'accord avec Jacqueline. Jeannette hochait la tête et semblait du même avis. Puis, à un moment donné, la discussion a pris une tournure inattendue.
On n'est pas du maintien à domicile. Les maintiens à domicile, c'est des services publics qui permet aux gens de rester dans leur maison le plus longtemps possible.
Ouais, mais moi, je trouve que c'est les deux, Jeannette, parce que moi, je bénéficie de tout, là, tu sais. Moi, je bénéficie, moi, j'ai le CLSC, j'ai la corderie, j'ai mes voisins, j'ai des services sur le plan médical aussi. Donc, non, moi je trouve que c'est tout.
C'est complémentaire.
Et toi, qu'est-ce que le CLSC donne comme service? La corderie ne donne pas ça.
Ouais.
Puis, moi, je dis que pour...
Sauf que le CLSC, là, il ne donne plus de service.
Non, mais toi, tu parles du transport, mais du maintien à domicile. Moi, je veux dire, si j'avais besoin de quelqu'un, disons, pour faire des courses pour moi, là, moi, je me débrouille tout seul. Oui, mais c'est du maintien à domicile, ça.
Quelqu'un qui... mais tu es aussi active. C'est ça, la différence.
Ouais. Ouais, toi, il y en a qui peuvent pas du tout.
Tu donnes.
Ouais.
Tu donnes et tu retires.
Oui.
Il y a des crédits puis des débits. Tandis que les gens qui, par le projet là, Ancien Résilience et le nouveau...
Moi, je dis, écoute, Jeannette, là,
il n'y a pas d'input.
Il n'y a pas d'input, mais peut-être qu'il pourrait en avoir si les gens, les peut-être ces membres-là auraient besoin d'un coaching spécial.
C'est clair.
Tu sais, peut-être qu'il y a des choses qu'ils pourraient faire aussi, là. Si moi, je suis à domicile aussi, mais je suis capable... Mmh. Puis je suis en chaise roulante, mais il y a des choses que je suis capable de faire. Eux autres aussi, peut-être. Là.
La longue discussion, ou peut-être je devrais dire le débat entre Jacqueline et Jeannette, était une belle surprise et il révélait un enjeu que personne ne m'avait formulé directement en entrevue. Le défi, c'est qu'il existe une tension présente à l'intérieur des accorderies face au rôle de celle-ci sur la question du maintien à domicile. Est-ce que les accordeurs peuvent offrir des services tels que ceux du réseau de la santé ou d'autres ressources spécialisées? Pas nécessairement. Et est-ce que les accordeurs sont formés et préparés à toute éventualité en lien avec la perte d'autonomie d'un ou deux aînés? Pas comme un intervenant, c'est certain. Mais si on exclut ces situations, le maintien à domicile n'est pas favorisé seulement par un type d'acteur ou un type de service. Ce qui permet aux aînés de rester chez eux plus longtemps, c'est un ensemble d'acteurs et de services différents comprenant des services professionnels, de l'aide de la famille, des voisins et de la communauté. À mon avis, chacun de ces éléments est complémentaire et essentiel. Donc, tous ceux et celles qui souhaitent contribuer au maintien à domicile, dont l'accorderie, doivent être conscients du meilleur rôle qu'ils peuvent jouer face à l'enjeu et mettre celui-ci à profit en se concertant avec les autres. Mais le nœud de la question n'est pas uniquement là. Pour que l'apport des accorderies en lien avec le maintien à domicile soit en accord avec le principe d'échange des accorderies, en pratique, les aînés qui reçoivent doivent aussi offrir. Tout ça était riche. J'ai pas pu m'empêcher d'en parler à Paul.
C'est sûr que quelqu'un qui a des problèmes cognitifs, une démence précoce, maladie d'Alzheimer, là, c'est sûr que c'est plus compliqué, parfois, effectivement, pratiquement impossible de devenir un accordeur. Mais si c'est des problèmes plus d'ordre physique, ben là, je pense que la personne, si on fait preuve de créativité et qu'on part pas d'une forme d'âgisme, c'est-à-dire que les personnes aînées, parce que bon, à la chinoise, on va dire que c'est plutôt la perfection qui s'achève, tandis qu'en Amérique du Nord, on est plutôt dans l'optique négative de la vieillesse. Donc, moi, je pense que des personnes aînées, j'en suis une d'ailleurs, on peut contribuer à la mesure de leurs moyens si, moindrement, on fait preuve de créativité.
À son avis, il ne fallait pas trop s'inquiéter d'un déséquilibre dans le ratio offrir et recevoir, parce que c'était presque possible, dans tous les cas, que les aînés puissent donner et y prendre goût. Des parallèles peuvent être aussi faits avec d'autres enjeux sociaux.
J'ai travaillé une bonne partie de ma vie dans le domaine de la santé mentale. Donc, les gens qui ont un problème de santé mentale majeur vont penser qu'ils sont bons à rien avant. Les intervenants avaient tendance à leur refléter ça. Tu sais, je vais t'employer un terme, là, un malade mental chronique. Bon, quelqu'un qui intègre ce qu'on appelle dans le jargon sociologique une identité négative d'elle-même, c'est sûr qu'elle n'a plus d'espoir, puis elle pense qu'elle n'est pas capable de faire grand-chose dans la vie. Fait que l'âgisme, c'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-stigmatisation. Mm-hmm. Ou pour le dire autrement, dans un langage simple, le pas capable, pas capable.
Ouais.
Très présent, le pas capable là, auprès des gens en santé mentale ou de certaines personnes aînées, parce que bon, ils ont intériorisé une identité négative d'elles-mêmes. Donc, ça, je pense que c'est une forme d'handicap là, invisible qui nuit à l'intégration. Moi, je suis partisan que toute personne, sauf vraiment cas extrême, a des ressources. Il faut bâtir. Travailler avec ces ressources-là de la personne et de la communauté.
Bon, bien, une petite entrée vocale par rapport à la recherche. Les choses avancent pas mal. Là, je viens juste de sortir d'une rencontre là, à l'université avec Paul Morin, où est-ce qu'on a eu une discussion très animée sur qu'est-ce qui pourrait permettre aux aînés à la fois de recevoir et d'offrir, là, c'est d'avoir un équilibre là-dedans. Puis un peu ce qui est sorti de ça, c'est qu'une des solutions à ça, bien, c'est de ne pas se laisser bloquer par des préjugés, puis aussi d'être créatif. Puis en sortant du bureau de poste, j'ai vraiment eu le sentiment que je commençais à être au bout du sujet. Puis vraiment, ce qui ressort le plus, c'est que je pense que l'accorderie, quand on parle de solution créative, bien, c'est peut-être la solution créative au maintien à domicile, au sens que ça permet aux aînés de recevoir des services, puis ça permet aussi, ça leur donne l'opportunité, puis ça les aide à offrir des services. Puis à ce titre-là, je trouve vraiment que l'accorderie est un atout, surtout quand que l'organisation aide les aînés à débusquer leurs talents, un peu comme Mariette m'a expliqué. Je trouve ça vraiment très innovateur. Donc c'est ça, je pense que la fin de ma petite enquête approche. Mais je reste encore l'esprit ouvert, parce que là, je me déplace au Baobab pour rencontrer le deuxième couple d'accordeurs que Isabelle m'a cédulé, si je peux dire ça. Je vais aller observer Jean-Marc et Angèle. Et dans ce duo-là, dans le fond, théoriquement, c'est Angèle qui est l'aînée qui reçoit le service. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va ressortir de cette observation-là. Je garde l'esprit ouvert. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues encore.
J'avais rejoint Jean-Marc dans le stationnement du Baobab et on venait tout juste d'arrêter devant l'immeuble d'Angèle.
Ah, es-tu correct?
Oui.
Bonjour.
Allô, c'est vrai, vous ne vous connaissez pas, vous autres?
Non, non, on ne s'est jamais vu.
Ben, je t'ai vu sur Internet, là.
Ah oui? Ah, OK, OK, OK. Ouais, ouais, je suis bien actif sur
J'ai
Internet.
J'ai vu ton nom aussi.
Immédiatement, son rire contagieux m'a fait sourire. Ça promettait d'être un après-midi agréable.
Fait qu'Angèle, bien ouais. attaché?
Oui, oui. Ouais. Oui, monsieur. Monsieur le chauffeur.
Monsieur le chauffeur. Oui, c'est rare que tu te fais chauffer en arrière demain, hein? Gros luxe aujourd'hui.
Je sentais qu'elle et Jean-Marc avaient un bon lien. J'étais impatient d'en savoir plus sur leur relation.
Ça fait combien de temps que vous connaissez, vous deux?
Ben, pas tant, hein? Ça fait quoi,
non,
Angèle?
Non, ça fait, je sais pas, une couple de mois.
Tu veux raconter, Angèle?
Oui, oui. Ah, oui? Non, ben non, continue, là.
tu peux commenter, renchérir, si
ouais,
tu veux.
C'est ça.
Mais avait... c'est toi, au fond, qui a fait la démarche.
Oui.
C'est intriguant, ça. C'est pas Angèle qui a fait les démarches pour avoir de l'aide de Jean-Marc.
Il y avait l'animatrice qui posait différentes questions, puis j'ai des questions dans un plat. Et une des questions, c'était... Si vous n'aviez pas de limite de budget, où vous aimeriez voyager? Qu'est-ce que tu as répondu, Angèle?
Je visiterais le Québec.
c'est pas tout le monde qui répondrait ça.
Non, c'est ça. À tout ça, tout le monde répondait des pays ailleurs.
Ben oui.
L'Australie.
Fait que moi, j'ai trouvé ça cute, tu sais, puis je me suis dit, hey, ben, je pourrais peut-être faire des voyages avec elle, tu sais, okay. Pas trop loin, là, tu sais. Finalement, on n'a pas voyagé ben.
Non, c'est ça. Puis...
Ça faisait même pas une heure que j'étais avec eux et j'apprenais déjà. On sentait pas nécessairement que les deux s'inscrivaient dans une logique de service. C'était surtout deux humains d'âges différents qui souhaitaient faire des activités qu'ils aiment ensemble.
La première chose qu'on a faite, on est allé au théâtre.
Non, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on allait prendre un café au Baobab parce que tu voulais pas qu'on parte en char parce que t'avais peur que je sois un enleveur de vieilles dames. T'en souviens-tu?
Voir quelques fois avant, oui. Moi, j'ai vu une fois, là, il a l'air simple. Là.
On a roulé pendant quelques minutes ensemble. Et après un moment, on est arrivé devant l'appartement de Sarah. Parce que oui, il y avait aussi une autre personne qui participait à l'échange.
Allô!
Salut, Sarah.
Sarah, c'était une jeune accordeur dans la vingtaine qui s'était proposée pour être jumelée à une personne aînée pour lui venir en aide, en quelque sorte, avec Jean-Marc. Ou je sais pas trop. En fait, les deux aimaient beaucoup Angèle et semblaient presque en compétition.
Ouais, Angèle, là, quand tu nous as écrit, là, un beau bonjour, particulièrement à Sarah, t'es un peu jaloux, là.
Ouais, justement.
Jean-Marc exagère, évidemment, parce que vous l'avez vu, il y a la blague facile. Je vous l'ai pas dit encore, mais on se dirigeait vers un café où les trois avaient convenu de se rencontrer pour voir comment ils pouvaient échanger ensemble. Ça faisait un bout qu'ils voulaient faire ça, mais la maladie s'était mise dans le chemin. Et non, c'était pas Angèle qui avait été malade.
Je commençais à avoir hâte de te revoir.
Ouais, moi aussi, j'avais hâte.
Ben oui. Oh,
mais au début, tu sais, ça avait juste l'air d'un rhume. Fait que je me suis dit, ça va, une semaine, je vais être
prêt. Oui,
mais oui. Finalement.
T'as-tu empêché d'étudier ou.
Ouais, ça fait trois semaines que j'ai rien.
C'est vrai?
Avancé dans mes cours.
Mais toi, tu peux y aller un peu à ton rythme. Avec...
C'était le monde à l'envers, on dirait. Plus que la rencontre avançait, plus que je me demandais si j'assistais véritablement à un échange de services entre accordeurs. Parce qu'en apparence, c'était seulement trois personnes qui passaient du bon temps ensemble. On est finalement entrés dans le café.
Il y a tellement de sortes, hein? Ça n'a pas de bon goût. C'est... T'as-tu essayé des cafés glacés?
Oui.
Ouais, t'aimes ça?
Oui.
Ouais? Frapper, ça veut dire quoi, ça, frapper?
Ouais, c'est que la glace est genre...
Il y a de la glace dedans?
Ouais, mais qu'on casse.
Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Fait que c'est un froid aussi.
Mm-hmm.
OK. Ben, coudonc, sont-ils tous froids, coudonc?
Celles-là d'avant, ils sont
chauds. Ah, les petits ici, c'est ça. Ah, OK, fait qu'ils font des balles.
Je blague un peu, mais pendant un moment, je me suis quasiment demandé c'est qui aidait qui dans cet échange-là. C'était qui recevait? Jean-Marc? Ou Angèle, ou les deux, ou les trois.
Est-ce que vous avez eu le temps de regarder pour faire des cafés?
Oui.
Oui, madame, j'ai commencé à le
prendre. Un dirty chai glacé.
Un dirty chai.
Question vraiment de bien les écouter sans intervenir. Pendant une demi-heure, j'avais simplement installé mes micros pour les enregistrer sans même être là. Mais j'ai pas fait ça longtemps parce que c'était plus fort que moi. Ils étaient juste trop attachants.
Ah, je me demandais si t'étais parti.
Non, ben, je voulais vous laisser jaser un petit peu.
Je me suis assis et je les ai laissés encore parler un moment pour voir comment leur trio pourrait fonctionner. Comment Jean-Marc et Sarah pourraient aider Angèle, je pense.
J'aimerais ça savoir comment tu vois ça, là, tu sais. C'est quoi un peu tes attentes par rapport à ça, si t'en as?
Ben, faire des courses.
On pourrait prendre Sarah, ouais, puis... Ben... Parce que toi, tu voulais aller magasiner avec Sarah parce que c'est une femme, puis les femmes aiment plus magasiner.
Tu n'es jamais disponible. Ah, non, magasiner. Ah, je ne suis pas disponible cette journée-là.
Ouais, c'est sûr que je ne suis pas très magasineux, mais
ouais.
Je pourrais vous accompagner une fois de temps en temps.
Ben, il y avait ça. Là. Je ne sais pas, on pourra découvrir d'autres choses.
Angèle avait de bonnes suggestions. Mais avec Jean-Marc, on dirait que ça ne fonctionnait pas toujours. Mais elle restait optimiste.
Connais-tu le Scrabble? Oui.
Scrabble, c'est les lettres, ça? C'est les
lettres? Oui, des lettres.
Moi, je ne suis pas fou de ça, mais je pourrais jouer pour vous accompagner.
Pas de Scrabble, pas de magasinage.
Oui, c'est ça. Sûrement qu'au fil de nos rencontres, on va trouver des points communs, quelque chose qui nous... L'intérêt
de part d'autre. Wow, c'est beau.
Merci.
La rencontre avançait. Et je voyais bien le bien que ça faisait aux trois personnes. Sarah était un peu silencieuse, mais pendant un moment, elle a discuté avec Jean-Marc du divorce de ses parents.
On voit ça souvent dans les téléromans, tu sais. Les enfants sont fâchés. Je ne sais pas ce qui est arrivé, là. Peut-être que tu n'as pas le goût de parler de ça, mais... des fois, on se sépare juste parce qu'on est rendu ailleurs. Là. Moi, j'ai vécu ça, mais...
J'étais pas fâchée, j'étais surtout triste.
Ouais.
Puis j'avais de la misère à comprendre.
C'était positif. Et à un moment donné, je me suis demandé si le fait de socialiser comme ça, ça faisait du bien à Angèle. Est-ce que ça la sortait de l'isolement? Peut-être pas. Du moins, pas principalement.
Faut dire, moi, je me suis jamais ennuyée.
Ouais.
Parce que... Je connais pas ça, la solitude.
Ouais. Mais tu connais la solitude, mais tu t'ennuies pas. Parce que t'habites seule.
Ouais.
Parce qu'il y en a qui vivent l'isolement, tu sais, puis qui font appel à des accordeurs pour ça. Toi, ce que tu vis...
Là, c'est ça, parce que dans le fond, c'est toi qui as le besoin, en principe, tu sais. Nous, on t'accompagne, mais c'est plus toi qui as besoin, fait que... Tu sais, dans le fond, est-ce que c'est... On s'attend à ce que tu nous relances, puis là, tu dis... Ben, si tu t'ennuies jamais, tu nous diras pas, « Hey, je m'ennuie, on se voit-tu?
» C'est le contraire, si vous vous ennuyez.
Mais moi, j'avoue que, tu sais, on se parle quand même assez souvent sur Messenger, puis, tu sais, après une couple de jours, là, tu sais, j'ai le goût de la relancer, mais Angèle me relance aussi, fait que pour ça, le fun, tu sais, c'est cool, là, puis là, on t'embarque là-dedans, ça va être le fun aussi, tu sais. C'est devenu, pour moi, c'est une amie, là, tu sais, Angèle.
C'était tout un revirement de situation, ça. Et je dois vous avouer que j'ai été surpris toute l'après-midi, parce que finalement, c'est qui recevait et qui donnait entre Sarah, Jean-Marc et Angèle? C'était pas clair pour moi au début. Je sentais aussi qu'ils s'inscrivaient pas dans une logique transactionnelle et que dans les prochains jours ou mois, ils se rendraient collectivement deux services, se lier d'amitié et s'appuyer mutuellement. Est-ce que ça permettrait à Angèle de demeurer à domicile plus longtemps? Peut-être pas directement. Mais ce petit bout d'après-midi m'avait fait voir le potentiel de l'accorderie sous un autre angle. C'était également possible de faire des échanges qui apportaient des bienfaits à tout le monde, en même temps. Juste au moment où j'étais pour quitter le café, Angèle m'a révélé qu'elle avait habité en HLM dans les années 70 et qu'elle s'était impliquée dans son milieu de vie à l'époque. Pour moi, c'était un beau clin d'œil, parce que ça fait 10 ans que j'étudie ce sujet-là. Quelques mois plus tard, je lui ai donc demandé si elle voulait participer à un autre balado que je réalise sur l'apport des locataires de ces habitations-là. Elle a accepté. Et par cette action-là, je venais de donner un exemple très concret et original de ce qu'une aînée assez âgée comme elle peut donner. Angèle pouvait peut-être pas m'aider à peinturer mon appartement, mais en participant à un enregistrement, elle m'avait donné et offert à tous les locataires et gestionnaires de HLM quelque chose d'encore plus précieux. Sa mémoire, ses conseils et son vécu. Très éclairant. Est-ce que je serais redondant en vous disant que ça lui a aussi fait un très grand bien? Si c'est le cas, je plaide coupable.